Frères et sœurs, les évangélistes notent souvent que le Seigneur se retirait pour prier. Mais la présence des disciples est rarement évoquée à ce moment-là, contrairement à ce que fait Luc aujourd'hui dans ce passage. Car il ne dissocie pas la prière de Jésus des questions qu'il pose à ses disciples. Nous pouvons recevoir cet épisode comme une école de la prière que le Christ nous propose. La prière est représentée comme une découverte de l'essence même de Jésus à travers un dialogue entre l'homme et Dieu. Dialogue devenant pour Pierre disponibilité à l'esprit qui mettra dans sa bouche la vérité lorsqu'il dit « Tu es le Messie de Dieu ». La prière ici commence par une écoute du monde. Pour la foule, qui est Jésus? Quel visage de Dieu le monde connaît-il? Ce qui revient à dire, quel visage du Seigneur montrons-nous encore aujourd'hui au monde? Aujourd'hui comme hier, souvent les gens se trompent sur Dieu, ou bien leurs références sont anciennes, comme c'est le cas pour la foule de l'Évangile. Et c'est notre responsabilité de ne pas révéler la nouveauté de la personne du Christ, ou bien l'image qu'ils en ont est déformée par l'écart entre nos paroles et nos actes. L'écoute du monde peut être une étape révélatrice dans notre quête du visage du Seigneur. Nous nous évangélisons les uns les autres. Au terme de cette écoute, la prière devient disponibilité à l'esprit. Ce mouvement de la prière, même sans rupture, du monde à la contemplation du Christ. Luc confirme dans la seconde partie du texte que ce chemin ne saurait échapper à une certaine mort à soi-même. Toute prière passe par un renoncement à ses propres mots. C'est un silence qui se fait. C'est un silence qui se fait écoute, une sorte de mort pour que la résurrection illumine notre être. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, perdre sa vie, autant de mots difficiles à comprendre et d'expressions sujettes à contresens. Ne mène-t-il pas à une résignation maladive capable d'entacher tout le christianisme? Ne provoque-t-elle pas le mépris des incroyants et la gêne, encore aujourd'hui, de certains chrétiens? Pour comprendre ces mots, qui sont au cœur de l'Évangile et qui nous guident à la suite du Christ, il faut toute l'intelligence du mystère pascal et non le comprendre à moitié. Par exemple, renoncer ne va pas sans être comblé. Prendre sa croix ne va pas sans ressusciter. Perdre sa vie ne va pas sans sauver sa vie. Très souvent, nous oublions le paradoxe de ces formules pour les court-circuiter ou en faire des sens uniques. Pourtant, nous sommes habitués à la loi de l'échange. Le fabricant ne garde pas ses produits, mais les perd sur le marché pour le gagner en argent. Nous connaissons aussi la loi de la communication. Il faut se taire, arrêter de parler pour écouter l'autre, et nous reprenons ensuite la parole. Le dialogue est un échange, et la loi de l'amour ne va pas autrement. Il faut s'oublier, dit-on, pour accueillir l'autre. Il faut savoir donner et recevoir. si on ne consent pas à renoncer un peu de soi-même pour l'autre, à mettre une croix sur la liberté sauvage pour l'autre et lorsqu'on est en famille pour les enfants, à perdre un peu ou totalement sa vie pour vivre d'un amour, le couple s'étiole, perd sa saveur et risque de se séparer puisqu'il n'y a plus de raison d'être ensemble. Ainsi va la vie, ainsi va le mouvement de l'amour. Qui est le Christ ? Demande l'Évangile d'aujourd'hui. Il est celui qui va jusqu'au bout de ce mouvement d'échange et d'amour. Et cela en toute liberté. Il dira : ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors, qui est le disciple ? C'est celui qui suit le même mouvement de donner pour recevoir. Il a sa façon de renoncer pour être comblé, sa manière de mettre une croix sur son moi pour aimer les autres. Il perd en quelque sorte sa vie pour aimer l'autre. Il perd sa vie pour la recevoir du Père. Il suit alors le Christ sur la route de la résurrection. Amen.